huitième éventail d'Evento, aujourd'hui depuis la cité Le Grand Parc, d'où nous étions partis hier pour aller à Bègles via notre travelling radio. Enjeux pratiques et méthodes de projets participatifs, un échange aujourd'hui non seulement de points de vue, mais surtout d'expériences et de réflexions pour que ces projets puissent coordonner leurs actions et porter haut et fort la parole des habitants aux oreilles de qui de droit. Sur ce plateau, Anne-Cécile Paredes du collectif Le Bruit du Frigo, Stéphane Marolo du Centre Social Grand Parc, Roland de Pinero, présidente de l'association Intensité, Geneviève Rando du collectif Bordeaux Nord, collectif de ressources culturelles, François Poujardieu et Isabelle Scharf du collectif d'associations réunis à la LD Douves, et puis les enseignants et des élèves du collège expérimental Clisten. J'espère n'oublier personne. Comment des projets artistiques s'articulent avec des processus de participation citoyenne? Peut-être un premier axe de nos discussions. On va commencer avec Geneviève Rando. Peut-être quelques mots juste pour situer Bordeaux Nord, qui fédère acteurs sociaux et projets culturels. Et puis avec, par exemple, peut-être quelques mots pour commencer sur le jardin de ta sœur, Geneviève Rando.
Alors, bonjour. Le jardin de ta sœur, le collectif de ressources Bordeaux Nord, sont les enfants d'autres actions qui ont été menées avant. J'insiste beaucoup là-dessus parce que la question de la participation et des actions collectives, ce n'est jamais une génération spontanée. J'insiste énormément là-dessus. C'est une posture de travail, c'est une posture d'attitude par rapport à des enjeux que repèrent à la fois des habitants, mais aussi des associations et des salariés dans ces associations et des administrateurs. Donc c'est la conjoncture de plusieurs, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est la conjoncture de plusieurs groupes d'acteurs qui vont coopérer autour de ce qu'ils ont identifié comme étant pour eux, à un moment donné de leur histoire sociale, un enjeu commun qui vaut le coup d'être défendu. Et c'est parce qu'on considère qu'un enjeu vaut le coup d'être défendu qu'on va trouver la manière de rentrer en discussion et en négociation. Donc le collectif du Jardin de ta sœur, c'est le dernier né. 10 ans avant, il y avait eu le collectif Bordeaux Nord. Et puis 20 ans avant, il y avait eu le collectif qui s'appelait le collectif Mieux Vivre sur la question de l'habitat. Et puis il y a eu plein d'autres actions qui ont fait qu'à un moment donné... Il vaut mieux se réunir pour agir quand on a les uns et les autres les mêmes questions qui se posent à nous.
C'est exactement le propos de ce plateau, de cette réunion. Je voudrais maintenant passer la parole à Anne-Cécile Paredes. On vient d'entendre à l'instant Geneviève évoquer cette question de la posture juste. Alors peut-être quelques mots à propos du bruit du frigo, justement sur cette éthique dans la relation aux habitants dans les processus de participation. Anne-Cécile Paredes.
Bonjour. Je crois que pour rebondir d'abord sur l'idée d'éthique, ça serait plutôt que nous, on commence des projets en faisant du terrain, donc en prenant du temps. Et cette notion de temps, elle est vitale, en fait. Et du coup, ça va être à la fois un handicap et pour s'inscrire dans des processus qui, eux, sont beaucoup plus rapides, et à la fois un endroit d'où je rejoins Geneviève, qui est de l'ordre de la posture, parce que si on ne défend pas ces endroits de temps, on ne va pas vraiment réussir à coopérer. Aujourd'hui, au moment de ce plateau, on se pose des questions à l'intérieur du frigo, parce qu'on a imaginé plein de manières différentes de faire coopérer des professionnels, mais aussi des usagers, donc des habitants, sur comment on aménage le cadre de vie. Il y a des histoires comme le jardin de ta sœur, qui sont des histoires... qui font partie du cœur du frigo aussi, en tout cas qui ont été pour le frigo des moments d'initiation, d'expérimentation. Et puis après, on évolue aussi, puis on a tenté aussi de se dire quelles sont les conditions pour faire vraiment un projet participatif. Donc on se rend compte qu'il faut une énergie sur le terrain. Une énergie, ça peut être des acteurs, des habitants, en tout cas une volonté, quoi. Quelle qu'elle soit, qu'elle part du quartier. Et qu'à un moment donné, il va falloir aussi une volonté politique. Et que ça marche quand on arrive à coordonner les deux. Alors ces dernières années, on a aussi testé d'essayer de rentrer dans des quartiers où on avait l'impression qu'il y avait une volonté politique. Et puis on s'est confronté à une difficulté, c'est qu'aujourd'hui, C'est pas comme il y a 15 ans, quand la concertation n'existait pas. Aujourd'hui, la politique publique, elle fait des concertations. Donc on se retrouve avec une difficulté supplémentaire où aujourd'hui, c'est plus dire il faut prendre en compte la parole de l'habitant, mais parce que sinon, ils lui répondent très vite. Hein. Ils le disent, oui, on la prend en compte, on fait des processus de concertation, il y a 3 réunions qui sont faites. Mais c'est quelle relation et quelle chance on donne à que le projet se fasse, en fait. Et du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on demande à un habitant de faire mieux qu'un architecte et un urbaniste. Un architecte et un urbaniste, ils travaillent pendant 3 ans, j'exagère, 3 ans, j'en sais rien, en fait, mais ils travaillent avec du temps sur un projet, un dessin, quoi, un projet urbain. Et puis, on va demander à un habitant de se réunir 4 fois et d'avoir des idées fantastiques et merveilleuses. Et d'en faire un projet. Donc du coup, en fait, c'est pas vraiment un moment de travail qu'on propose avec des habitants ou des usagers, c'est un moment de communication. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, dans notre travail, l'enjeu, c'est de prendre en compte cette nouvelle difficulté et plus dire il faut prendre en compte la parole de l'habitant, mais comment on la prend en compte et comment on se donne les moyens, en fait.
Comment on se donne les moyens et aussi comment on se donne le temps, cette dimension de la temporalité qui a été évoquée là, elle est essentielle.
Parce que du coup, il va falloir... les habitants, ils ont des professions, c'est des individus comme les autres, donc ça veut dire qu'il va falloir transmettre des codes, ça va être long, on va en perdre peut-être la moitié sur la route, mais de ce qui va rester, là, on va vraiment faire du projet urbain, quoi. Et du coup, c'est, je pense, en tout cas, moi, j'ai pas vécu le jardin de ta sœur, mais les garçons, ils en sont très attachés, et ils racontent vraiment que s'ils ont réussi à ce moment-là, si le collectif a réussi, c'est qu'ils ont bossé comme des fous pendant un an et que quand ils ont proposé le projet face aux élus, ils étaient légitimes, mais ils étaient aussi... Enfin, c'était juste, en fait. C'était un meilleur projet, en fait, que les projets qu'ils avaient contre, quoi. Donc, le reste, moi, j'ai pas participé, mais je crois que c'était un truc de promoteur. Et en fait, l'enjeu, c'est d'arriver à ça, c'est faire des meilleurs projets que ceux qui pensent pour nous, en fait, quoi.
Geneviève, peut-être en rebond, justement, comment ont réagi les élus à ce meilleur projet ?
Alors, 2 ou 3 éléments avant. Tout d'abord, la cheville ouvrière du travail du Jardin de ta sœur sur Bordeaux Nord, ça a été Jean-Philippe Lasfar qui est à côté de moi, là. Et je tiens à le présenter. Ce que je voudrais dire surtout, enfin, je pense qu'on s'en sera d'accord, Jean-Philippe, c'est que le collectif du Jardin de ta sœur est sorti l'année des 40 ans. L'année où on a fêté les 40 ans du centre. Et c'est pas par hasard. Et 10 ans avant, on remettait sur le tapis le fait qu'il y avait une friche qui servait à rien. Et pendant 10 ans, on a bataillé, on a signalé cette friche. Voilà, je tiens à dire ça parce que sinon, comment dire, on raconte que la fin des histoires ou leur début. Hein. Or, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est la fiction sociale réaliste et pragmatique qu'on a été capable d'écrire ensemble. Sinon, on est quelque part, on perd la mémoire. Or, ce qui est important, sur la question, par exemple, de la temporalité, la question de la temporalité, c'est la question du temps de la transmission. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus. Le collectif du Jardin de ta sœur donc, est une émanation de tout ce processus qu'on avait mis en place depuis 10 ans, que sur cette friche, mais qu'on avait mis en place depuis peut-être 20 ou 30 ans sur cette approche, c'est de dire, premièrement, les questions qui se posent à nous nous regardent et on peut en dire quelque chose. Deuxièmement, on est capable d'organiser un discours et des propositions de pratique autour de ça. On l'a eu fait avec l'habitat, on l'a eu fait avec plein d'autres choses. Troisièmement, c'est pas parce qu'au départ on est seul autour de la table qu'à la fin on sera toujours seul. Donc le jeu consiste non pas à travailler sur des logiques de concertation, mais sur les éléments constitutifs d'une négociation potentielle et qu'il faudra réussir. Là-dessus, je dirais qu'il y a 3 éléments. Premier élément, il faut qu'on soit pragmatique. Deuxième élément, il faut qu'on ait une posture commune. Et troisième élément, il faut travailler dans des logiques de loyauté mutuelle les uns avec les autres. Si ces 3 éléments ne sont pas réunis, j'ai envie de dire que ça ne peut pas fonctionner. Alors, c'est beaucoup de travail. Et c'est aussi comment, à un moment donné, quand vous vous adressez à quelqu'un dans la rue, il n'est pas obligé de vous croire si vous racontez que vous allez faire quelque chose avec lui. Hein ? Inventer un truc. Donc, quand on rentre en négociation, il n'y a aucune raison, a priori, que celui qui est en face nous croit. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse à chaque fois nos preuves. Ça veut dire qu'il faut qu'à chaque fois, on amène des billes par rapport à une question qui est aussi la question de celui qu'on a en face. par exemple, si on prend le jardin de ta sœur, c'est toute la question des espaces publics dans une ville et de leur usage. C'est comment, à un moment donné, on passe du chant incantatoire, parce que c'est un chant incantatoire quand même, la question de la participation, comment on passe du chant incantatoire à sa réalisation. Et dès lors qu'on va proposer aux gens de prendre la parole, c'est poser un acte. C'est pas fabriquer du discours. Parler, c'est fabriquer de l'action. Voilà. Et ça, ça me paraît important. Voilà, je redis ça. Jean-Philippe, si tu veux dire quelque chose par rapport...
Quelque chose à ajouter, Jean-Philippe ? En deux mots.
Peut-être juste pour rebondir sur le travail qu'on a fait avec le bruit du frigo. À la suite des 40 ans du centre social, on avait terminé par un atelier d'urbanisme utopique. Et à l'époque, il y a un habitant qui a pris la parole, qui s'est levé, qui a dit qu'on était des doux rêveurs et qu'on rêvait que c'était pas la peine, ça n'allait jamais marcher. Voilà, juste pour la petite histoire, cette personne est un membre du collectif du Jardin de ta sœur, une personne extrêmement active et qui, voilà, au bout de 5-6 ans, a rallié, elle a pris le temps, mais elle est venue. Et effectivement, parce qu'on est sur un processus où on fabrique des choses, où c'est palpable, voilà, les gens arrivent à changer aussi d'opinion et être passés de l'autre côté, quoi.
C'est bien ça dont il est question, c'est justement de ces changements d'opinion, c'est d'arriver à opérer ces points de bascule. Evento, dans lequel s'inscrit ce plateau radio, dans le cadre des chantiers mobiles d'Evento, est-il une occasion de déclencher des formes pérennes de démocratie participative ? On peut se poser la question. En tout cas, on écoute tout de suite un son enregistré il y a quelques jours par Nelly Fleischer, le collège Clisten. Y évoque l'exposition Racines urbaines, qui est en ce moment même présentée aux abattoirs.
S'il y en a qui ont fini, vous laissez votre place. Pensez à fermer Tao, j'ai demandé de fermer les entrées, s'il vous plaît. Tao, je t'ai demandé de fermer l'entrée.
Après, tu peux passer sur l'entrée, s'il te
plaît. On est venu visiter
L'abattoir.
Oui, l'abattoir, mais...
Pour les bateaux, parce qu'après voilà. Ça va être refait pour je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est dans le thème artistique. C'est pour une chose artistique, et là, on est en train de faire des affiches.
En même temps, on est en train de faire des affiches aussi pour pouvoir mettre les photos sur notre collège pour faire un peu de pub ou...
Non, c'est pour mettre des affiches pour 2030. Ils ont dit comme ça, je sais plus trop pourquoi c'est, mais on fait des affiches pour... Il n'y a pas n'importe quel mot, c'est des mots qui ont le sens avec, pas forcément Bordeaux, mais avec la terre. Bio, par exemple, voilà. Il y a des mots aussi qui sont en relation avec l'abattoir, qui sont ensemble, et les affiches, elles vont servir à un peu des idées pour 2030.
Des idées de quoi ?
Comme si, imaginons, moi j'ai marqué rêver de plus de trottoirs, parce qu'il y en a qui rêvent d'avoir plus de trottoirs parce que les voitures elles prennent trop de place dans la rue et ils n'ont pas trop de place pour marcher. Quand il y a une rue, les trottoirs ils font 10 mm et du coup on ne peut pas marcher dessus.
Donc c'est pour ça. Les rêves des habitants de Bordeaux pour 2030 ?
Oui, voilà un peu.
Huitième éventail d'Evento, aujourd'hui à la cité Le Grand Parc et sur les ondes de Radio Grenouille à Marseille et de Radio Campus Bordeaux à Bordeaux. On écoutait à l'instant les élèves du collège Clisten qui sont avec nous sur ce plateau, accompagnés de leur professeur Nadine Coussy-Chaveau. Peut-être quelques mots sur l'ensemble du processus que vous avez mené, je crois depuis quelques jours, de porter un regard sur les productions d'Evento.
Oui, alors je suis Anne-Iri Barène, enseignante de français, et c'est Madame Coussy-Claveau, voilà, qui est avec nous et qui enseigne les arts plastiques. Ça serait un peu long de présenter Clisten, mais les deux axes qui concernent cette semaine, c'est que 6 fois dans l'année, on organise des semaines interdisciplinaires où les élèves sont invités à se mobiliser autour d'un thème. Et donc, on savait que Evento... Donc aurait lieu là pendant cette semaine et donc on a décidé de consacrer toute une semaine à l'événement Et comme beaucoup de semaines ont quand même un lien avec la réflexion sur l'habitat et le lien aussi avec les structures du quartier, on a demandé aux élèves d'avoir deux postures pour cette semaine, à la fois d'être les acteurs, c'est-à-dire voilà, Evento, c'est sur ce thème, nous on va proposer des choses. On va aussi s'emparer d'éléments qui nous sont proposés. Alors, par exemple, les légendes urbaines. Bon, ils ont rédigé des légendes urbaines. Enfin, il y aurait d'autres exemples. Et l'autre posture, c'est plus une posture de journaliste. Donc, aller voir des expositions, voir ce qui se fait et en rendre compte. Et pourquoi pas porter une vision critique aussi.
Eh bien justement, je vais donner la parole à mes jeunes confrères, consoeurs, journalistes qui ont regardé cet événement Evento. Peut-être quel regard critique vous avez porté sur cette exposition que vous avez vue? Qu'est-ce qui vous y a intéressé tout particulièrement? C'était imaginer comment Bordeaux serait en 2030, c'est ça?
En plus grand, c'était ça. Parce qu'on a visité l'abattoir. Et sur le mur, il y avait écrit 1 million. Et on nous a expliqué que c'était pour avoir, pour que Bordeaux puisse avoir 1 million d'habitants plus tard, pour agrandir la ville. Et on nous a dit que c'était en fonction avec les Ventos. Et c'était à nous de faire des efforts aux habitants pour attirer du monde avec. Pour montrer un peu comment notre ville, comment ça se passe à Bordeaux. Et les idées sont venues comme ça. Exemple, avec notre groupe, nous, on a décidé de travailler sur l'abattoir. Parce que c'était ce qui nous avait intéressé le plus pour faire agrandir la ville. Et ça nous a plu. On a dit.
Alors, sur cette idée qu'il faut que les citoyens fassent des efforts pour que Bordeaux devienne millionnaire, qu'est-ce que vous en pensez? Ça laisse sans voix, hein, effectivement. Peut-être votre professeur à côté.
Moi, je n'ai pas vu cette exposition-là. Donc, oui, Bordeaux millionnaire. Oui. Peut-être qu'il y a autre chose à faire en attendant.
Sûrement.
Il y a beaucoup de choses à faire, je crois.
Il coulera de l'eau sous le pont de pierre d'ici à 2030 et que Bordeaux soit millionnaire. Souhaitons que tous ses habitants deviennent millionnaires. Peut-être comment s'approprier, au fond, un événement comme celui d'Evento pour infléchir le destin d'un lieu, le destin d'un quartier, le destin d'un espace, comme par exemple celui de la Halle des Douves ou bien du centre social Grand Parc. Comment on peut s'approprier un événement comme Evento? Alors peut-être pour la Halle des Douves, Isabelle, par exemple, ou bien François, si vous avez un micro. Il arrive vers vous.
Bonjour. Moi, je représente l'association L'Halle des Douves, mais aussi une compagnie de théâtre qui s'appelle Prologue. Donc, c'est un travail en amont qui s'est fait avec l'artiste Jeanne
Van Eeswijk.
Oui. Et l'idée qui se trame là au fur et à mesure, c'est comment faire renaître ce lieu qui a été abandonné depuis 85, mais depuis 75 aussi, il a été fermé, donc il n'a plus sa vocation de marché. Comment lui conserver cette raison d'être qui est quand même, c'est un lieu de résistance qui a bien vieilli, hein, quand on peut y revenir sans trop de difficultés. Et comment le réinvestir? Comment lui redonner un espace de circulation? Comment donner envie aux habitants de revenir dans cette halle et de se dire elle vous appartient. Ça, je crois que ça a été le questionnement à la fois de l'association de la Halle des Douves, mais aussi de Jeanne. Et donc, je vais passer la parole à Isabelle, si tu veux ajouter quelque chose là-dessus.
Alors Isabelle, justement, sur est-ce qu'au fond, ça a été efficace pour la Halle des Douves, ce passage de Evento? Est-ce que ça a permis de repenser un petit peu le projet? Il y avait eu quelques concertations plus ou moins efficaces qui avaient été menées entre les associations et puis la mairie. Peut-être que le passage de Jeanne Van Eeswijk et ce qui s'est déroulé au cours d'Evento a peut-être repensé, requalifié un petit peu le projet. C'est votre sentiment, Isabelle?
nous, il y a eu quelque chose de très agréable et très confortable, j'ai envie de dire, c'est que la démarche est vraiment venue de Jeanne. Elle s'est baladée dans le quartier, elle a flashé sur le bâtiment, elle a appris assez rapidement qu'il y avait un collectif qui existait autour de cette halle. Elle avait déjà bossé sur des marchés en Hollande, donc c'est un territoire qu'elle connaît, qu'elle aime. Nous, on n'oublie pas dans l'histoire que c'est un ancien marché. Le côté brassage, grouillage, bouillonnement du marché, c'est un peu ce qu'on essaye de reconstituer. D'ailleurs, on dit sans problème depuis le début de l'aventure que de la rencontre avec Evento, pardon, que c'est une préfiguration de ce que pourrait être la maison des associations. Donc nous, oui, c'est une super rencontre avec Jeanne. Parce qu'elle est venue nous chercher et qu'elle nous a dit « Moi, j'aimerais faire quelque chose avec vous. » Et que nous, ça fait quelques années, 2007, que le collectif est vraiment soudé. Mais qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre pour d'abord faire connaître le projet, rencontrer toutes les associations de façon exhaustive, c'est compliqué. Même si on en parle beaucoup, autant qu'on peut, tous les uns les autres dans les assos, avec nos réseaux, nos contacts, on rencontre tous les jours au Capucin des gens qui nous disent « Ah, mais on ne savait pas qu'il y avait un projet de maison des associations. » Donc toujours ce facteur temps hein, dont parlait Geneviève, Anne-Cécile. Le facteur temps, simplement faire savoir qu'il y a un projet autour de cette halle. Oui, Evento nous a permis au moins de le crier haut et fort. On a pu donner des rendez-vous aux associations. On savait que du 6 au 16 octobre 2011, on s'y retrouverait et qu'on pourrait élargir un petit peu tout ce qu'on a défriché ensemble. Donc oui, pour nous, c'est une vraie super rencontre.
Une super rencontre pour la Halle des Douves. Peut-être Roland Pinero pour Intensité. Est-ce qu'effectivement, il vous apparaît, vous, qu'un événement de la portée d'Evento, c'est un levier, finalement, sur lequel on peut s'appuyer pour développer une action qui est issue du terrain?
Alors, tout d'abord, je dois amener un petit rectificatif. Je ne suis pas la présidente du Centre social et culturel. Je suis administratrice, ce qui est déjà pas mal. Ça me donne assez de travail. Quand nous avons eu la rencontre avec Michelangelo Pistoletto, alors que nous nous croyons complètement évincés d'Evento, nous avons surtout travaillé justement sur cette participation que nous voulions très forte et qui fait partie du projet d'agrément que nous sommes en train d'écrire, du projet d'agrément 2012-2015 qui sera présenté à la CAF avant la fin de l'année. Et nous nous sommes saisis, oui, de l'opportunité d'Evento pour agir auprès des habitants, pour essayer de les motiver, pour qu'ils donnent leur avis sur un projet urbain. Nous avions déjà eu des concertations sur la salle des fêtes qui n'avaient pas abouti. Et là, je pense que nous allons essayer de tenir bon. C'est-à-dire que ce n'est pas que sur la période d'Evento que nous allons travailler, mais continuer dans l'avenir à faire participer les habitants. Pour cela, nous avons également fait le marché de Grand Parc pour parler aux habitants, pour leur dire qu'ils avaient le droit de donner leur avis sur un projet. Une concertation va être menée avec la mairie pour la réouverture de la salle des fêtes, mais nous ne voulions pas que cette concertation soit quelque chose de comment dirais-je, plaqué, mais agir vraiment avec tout le monde.
Stéphane Marolo du centre social Le Grand Parc, ici. Alors, ne pas plaquer des choses, hein, travailler plutôt sur la profondeur. Entre ce plaquage d'un événement qui, même s'il est bien intentionné, arrive quand même sur une temporalité très courte, et au contraire, le travail que tu mènes toi ici, qui est sur une temporalité de permanence beaucoup plus longue, comment arriver à trouver des passerelles? Stéphane Marolo.
Oui, peut-être préciser d'abord qu'un centre social seul, quelle que soit sa capacité à mobiliser les habitants, puisque c'est sa vocation première, ne peut absolument rien réussir en termes de transformation sociale s'il ne s'appuie pas aussi sur un partenariat. Donc ça, je le rappelle vraiment fortement. Le premier acte qu'on a posé lorsqu'on a rencontré quelques difficultés sur la manière dont Evento allait prendre place sur ce quartier, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est réunis entre partenaires, qu'on a très vite essayé d'associer les habitants à cette démarche. Le centre d'animation du Grand Parc a joué un rôle important, la bibliothèque du Grand Parc a joué un rôle important, MC2A a joué un rôle important, pour qu'on puisse déjà avoir une posture commune, pour reprendre ce que disait Geneviève tout à l'heure. Cette question de l'opportunité d'Evento, c'est exactement comme ça qu'on l'a appréhendé. Il y avait deux postures, on va dire trois postures même possibles. On accueillait Evento à bras ouverts et puis on prenait ce qu'on nous donnait. Ou bien on était dans une posture défensive en considérant qu'il s'agissait de quelque chose qui était de l'ordre de la communication municipale. Ou alors on prenait une position intermédiaire. Et c'est-à-dire qu'on était force de proposition au travers d'Evento. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et je crois qu'il y a un certain nombre de résultats qui ont été obtenus déjà. C'est-à-dire, par exemple, le fait qu'on ait eu la mairie qui s'est prononcée pour la première fois officiellement sur l'ouverture décidée de la salle des fêtes. Donc ça s'est fait pendant Evento et ça s'est fait suite à l'ensemble des actions qu'on a pu mener en termes de mobilisation. Je le disais hier soir quand on était à Bègle, la question c'est d'être en mesure de prendre la main. C'est-à-dire d'être
on va reparler,
le premier
si tu veux bien, de ces stratégies hein, de la participation, justement. Et entre autres, prendre la main et ne pas forcément laisser les questions émerger uniquement des technocrates. Sur les modalités de consultation mises en œuvre pour faire émerger une démocratie réelle, au-delà des représentations et de l'appropriation de la chose publique par une classe politique, je vous propose qu'on écoute un deuxième son enregistré par Nelly Fleischer, il y a quelques jours, où l'on entend la mise en travail d'une réunion de travail, en fait, du collectif du Grand Parc en vue de la déclaration d'intention que l'on entendra, je crois, ce soir.
La question que je me pose, c'est les décisions de la ville quant au calendrier de ces consultations. Parce qu'effectivement, là, il joue le mort.
Oui, oui.
Voilà, c'est sûr qu'il laisse passer la
Evento,
ça bouillonne, les pétards, les fumées, les machins, ceci et cela. Et après, ils vont y aller. Et effectivement, le jour où ils y vont, effectivement, comme ça a été dit, ils vont inviter la population, effectivement, la mairie, l'annexe, pour causer de cette histoire-là. Et ce jour-là, on ne s'inquiète pas, ils vont. Les militants de la droite, ils seront là dans la salle pour préparer, pour savonner le plancher. Donc effectivement, il n'y a pas tort. Tu amènes l'urne qui est forte de 700 cartes, ça représente quand même,
d'accord,
mais sans être des statistiques scientifiques, ça représente quand même un courant d'opinion.
C'est pas ce que j'ai dit.
Nous, on ne s'appuie pas là-dessus.
Mais après, sur la force symbolique, pardon.
Non, mais c'est... J'aime bien citer aux discussions parce que ça le mérite au moins de la familiarité, la solidarité dans laquelle on travaille. Ça, c'est très intéressant. Effectivement, parce que l'urne, quand même, c'est symbolique. C'est pas par hasard qu'on a mis une urne ce jour-là.
Absolument.
Trois urnes. Absolument. Et les trois urnes sont rentrées dans une. Ah, c'est quand même intéressant aussi. Elles sont là. Ça, on ne peut pas les enlever. Et elles sont pleines, ça a été dit, elles sont pleines. Alors effectivement, quand on dit que ce n'est pas scientifique, ce n'est pas comme les primaires socialistes, ou d'accord, mais c'est quand même la démocratie qui en marche, quand même. C'est un processus démocratique qui en marche. Elle est là, l'urne. Et voilà. Donc, après,
c'est la parole de
l'Isabelle. Isabelle.
Mais oui, mais c'est symbolique.
Isabelle.
Non, mais... moi, je voulais juste revenir à ce que disait Stéphane tout à l'heure. Tu as employé le mot résigné. Alors moi, je vais vous dire la vérité. Quand j'ai appris l'histoire des cartes postales, enfin quand on me les a amenées, l'urne, alors j'ai trouvé ça super léger, voire utopique. Je me suis dit, oula, d'accord, j'y vais, je le fais, je motive les gens à écrire, mais je trouvais ça totalement utopique. Il se trouve que les gens ont participé, et que quelque part ça pesait quand même. Ça pesait, et puis il y a eu du monde. Il y a eu du monde, donc vive l'utopie. Moi, je pense que le combat continue. Je ne suis pas résignée. Je me dis juste que a réussi à faire quelque chose. Moi, au départ, j'ai trouvé ça
pour redonner de l'utopie aux jeunes.
Au bout du compte, ça a marché. Et je pense que ça...
Il
faut se nourrir d'utopie.
Ben oui, donc du coup, c'est intéressant aussi ce genre de discussion de pouvoir poser quelque chose, même si moi, fondamentalement, je me dis que le côté obscur de la force sont beaucoup plus puissant que nous et que c'est m'avoir du mal. Mais le fait de se poser, d'écrire des choses, ça peut permettre, oui, ça, c'est une protection, ça nous permet aussi. Et puis en sachant que pas mal de quartiers, quand même, en menant leur centre, leur salle des fêtes, et pourquoi pas le Grand Parc, quoi. En plus que nous, c'est même pas à construire, c'est juste à rénover et, bah, et à continuer quoi, à faire.
Ou à démolir.
La raison du petit succès, c'est peut-être un détail, mais c'est l'urne. L'urne officielle, etc. Une vraie urne qui a amené quelque chose de complètement solennel.
Ça aurait pu faire peur.
Ça aurait été très important.
Ça aurait pu faire peur, peut-être.
Alors on va reparler dans quelques secondes de la symbolique de cette urne et du contexte de cette réunion de travail. Mais cette urne, elle a été alimentée par un peu plus de 700 cartes. Et on a avec nous Jérôme Laborde, qui va peut-être nous lire quelques-unes de ces cartes qui étaient placées dans cette urne. Jérôme.
Il serait bienvenu qu'une partie de la surface disponible soit réservée pour accueillir des repas de famille, par exemple, comme cela existe souvent dans les communes rurales. Je garde un souvenir précis de l'utilisation de cette salle pour des réunions publiques ou des spectacles. Le principal est la réouverture de cette salle, à disposition de différents besoins culturels, sociaux, familiaux. D'un point de vue esthétique, je propose de conserver le fronton et la mosaïque de la façade principale en l'état. Et d'un point de vue fonctionnel, qu'elle retrouve sa fonction première. Je fais partie d'une association de solidarité internationale et j'aimerais pouvoir contacter d'autres assos du Grand Parc, maison des associations, dans cette salle des fêtes. Une partie ouverte à des jeunes. La nuit, pour le moment, ils se réunissent sur les marches de l'église de la Trinité jusqu'à 3h du matin, seul lieu éclairé. Ce serait bien que cette salle, unique à Bordeaux, soit rendue utilisable et remplisse sa fonction originelle. Au-delà de la nécessité d'une grande salle de spectacle sur les quartiers nord, il serait aussi souhaitable qu'une telle salle soit réellement accessible et utilisable par la population. Pendant les élections, on s'occupe de la salle des fêtes. Beaucoup de promesses. Rien n'est fait depuis 20 ans. Cela serait formidable d'avoir un centre culturel, théâtre, conférences, cinéma. Car à Bordeaux, dans les quartiers, il faut une voiture pour aller à Mérignac.
Merci Jérôme. Quelques-unes des cartes, des 700 cartes qui étaient placées dans cette urne, urne, objet symbolique s'il en est. Quand on déclare aujourd'hui moribonde la démocratie représentative, qu'on se complaît de dire que les élections sont aujourd'hui désertées par les citoyens, que la politique ne les intéresse plus, voilà l'exemple qu'une urne peut réellement porter une parole citoyenne. Alors peut-être sur l'enjeu de cette consultation, Stéphane, Roland, Stéphane ?
Oui, je crois que surtout c'était l'occasion de rappeler à des personnes qui n'ont jamais même connu cette salle ouverte, puisque ça fait quand même plus de 15 ans qu'elle est fermée, mais qu'elle est là, présente sur le quartier, on passe devant comme devant un fantôme. À l'époque où la piscine du Grand Parc était fermée elle aussi, c'était quand même assez particulier d'entrer dans ce quartier hein, par le cours de Luz. Hein, on avait l'impression d'entrer dans une ville morte. Alors il y a eu déjà un certain nombre d'évolutions et là il reste cette salle. Donc la dimension symbolique de l'urne, bon, elle est simple. Il s'agit évidemment d'interpeller là le politique. Bien sûr, l'une des choses qu'on a défendues et qu'on défend, c'est certainement pas d'arriver, en tout cas dans l'état actuel des discussions qu'on a avec les habitants, c'est pas d'arriver avec un projet ficelé. On souhaite respecter le processus de consultation ou de concertation que met en place la ville. Ce qu'on veut, c'est l'investir et faire en sorte que les personnes qui vont y aller puissent avoir la capacité de s'y exprimer, donc il y a tout un travail de fond effectivement qui ne se fait pas en quelques semaines, puisse avoir un certain nombre de connaissances et de compétences, donc ça veut dire qu'il faut être capable d'avoir des connaissances techniques au niveau de l'architecture, etc. Donc il s'agit d'amener les populations à passer de l'intérêt individuel à l'intérêt collectif, et ça peut se faire dans un processus démocratique traditionnel, pour peu que les personnes qui mettent en œuvre cette concertation sentent que derrière, il y a une certaine pression. Hein, il y a quand même une dimension aussi de rapport de force à installer. Mais il ne s'agit pas de l'installer à côté, il s'agit de la faire pénétrer cet espace démocratique traditionnel.
Tactique et stratégie pour non seulement porter une parole, mais faire en sorte de l'activer, qu'elle s'impose aux décideurs, malgré les atermoiements et parfois les rideaux de fumée. Dans un instant, le temps d'écouter la leçon de géographie absurde des chercheurs du CRESAT, le centre de recherche en sciences absconses du territoire.
Eh bien, bonjour Xavier et bonjour à tous. Alors j'aimerais vous présenter aujourd'hui un projet de recherche en cours de démarrage, porté donc par le CRESAT, et dont la thématique est la géopolitique de l'espace participatif dans les villes d'Europe de l'Ouest. Alors ce projet a pour ambition de s'étaler jusqu'en 2014 pour une restitution en 2015 et cofinancé par l'Union européenne, la commune de Valbonne-Sophie-Antipolis où se situent les laboratoires du CRESAT et l'Institut de soutien à la diffusion d'une concertation participante, l'ISDCP, de l'Université Stosterone à Washington.
Université privée, hein, bien sûr.
Oui, une université américaine qui s'est implantée à Valbonne-Sophie-Antipolis et qui nous a permis de développer le CRESAT, le centre de recherche en sciences absconses du territoire. Alors, les postulats de ce projet de recherche sont assez simples et sont l'expression d'un engagement fort du CRESAT vis-à-vis des défis qui questionnent aujourd'hui la société civile. Face à la désaffection des forums publics, des agoras de concertation, face au caractère désuet même des causeries au coin du feu ou des débats informels, face enfin à la généralisation d'une démocratie du bulletin de vote, il nous a paru indispensable de favoriser une participation civile visible et vivante, vindicative et vivement investie d'une volontaire envie d'inviter l'évidence à se livrer. Alors, pour ce faire, les outils des sciences absconses du territoire nous sont apparus parfaitement appropriés. Par exemple, la notion d'espace participatif n'est-elle pas extrêmement pertinente ? La question spatiale est en effet omniprésente. Qu'il s'agisse de tours de table ou de territoires de la concertation, d'assemblées de quartiers ou de consultations urbaines, tout cela transpire l'espace. Et qui dit espace dit occupation humaine et aménagement. Et en ce qui nous concerne, gros contrat à la clé. Donc, pour rester fidèle à notre engagement en faveur d'une science complète, novatrice et audacieuse, nous croyons nécessaire de questionner non pas uniquement l'espace, mais également le temps de la participation. En réponse aux impasses, encore une notion spatiale, en réponse donc aux impasses que connaissent aujourd'hui les acteurs du débat public, questionner la participation hier ou demain peut permettre de déplacer l'enjeu. Ainsi, la conjugaison au participe passé de telle ou telle concertation peut certainement livrer des indices pour construire ensemble le participe présent. Alors, un second volet de ce projet de recherche fera appel à des outils plus quantitatifs, statistiques, analyse spatiale, data mining, pour avancer vers la résolution de l'équation du vivre ensemble. Mais c'est une autre histoire et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.
Merci à Jérémy Garniaud et aux chercheurs du CRESAT. Stratégie de résistance, la première consiste peut-être à infiltrer les espaces institutionnels de consultation, au fond, plutôt que de leur tourner le dos. Alors, sur cette nécessité d'être présent dans le dialogue institutionnel, malgré toutes les réserves qu'on peut émettre sur la sincérité des institutions ou sur leur compréhension des enjeux locaux, sur cette nécessité d'être présent sur les espaces de consultation, de participation, tels qu'ils sont offerts par les institutions. Peut-être Yvan Détraze, du Bruit du Frigo, qui vient de nous rejoindre il y a quelques minutes. Bonjour Yvan.
Bonjour. La nécessité d'être présent sur les espaces de consultation officiels.
De répondre à leurs invitations, de ne pas tourner le dos forcément à ces invitations.
Alors, nous, on leur tourne un petit peu le dos, hein, faut le dire. En tout cas, à Bordeaux. Nous, on travaille sur des contextes où on nous invite, où forcément on va sur ces espaces-là, mais d'ailleurs on les crée aussi nous-mêmes. On s'y intéresse, évidemment, quand on décide d'aller travailler sur des contextes, je reviens, on est à Bordeaux, sur des contextes où on choisit d'aller, donc effectivement on va s'intéresser à ce qui existe en termes de processus et de procédures. Après, on n'a pas forcément... on y a été, hein, je mentirais en disant qu'on tourne le dos à ça, mais non, on a été voir quand même, notamment sur certains quartiers où on a un attachement assez important, on a été voir ce qui s'y passait, on a très vite compris qu'on n'avait pas beaucoup de place, nous, en tout cas là-dedans, et qu'il fallait inventer autre chose à côté, ailleurs, de complémentaire, pourquoi pas. Nous, on s'évertue plutôt à proposer à d'autres cadres pour impliquer les gens.
Déception, donc, quelque part, finalement, par rapport à ces espaces de participation, de concertation, tels qu'ils sont offerts par les institutions. Anne-Cécile ?
Et du coup, on se le disait hier, parce qu'on était pour certains hier soir ensemble, mais là-dessus, ça me fait penser à des tactiques comme Olivier de Mangea parle à la Halle des Douves. Nous, c'est pas vraiment, effectivement, comme le dit Yvan, notre manière de fonctionner, mais je pense qu'on peut presque déjà plus parler de tactique que de stratégie. Et alors, ce qu'il fait, lui, c'est que donc, il se réunit avant avec les gens qui sont intéressés par le quartier ou l'endroit. Là, c'était la Halle des Douves. Lui, il est d'une formation d'architecte et d'urbaniste, donc il drive ses groupes de réflexion avec d'autres. Et après, il s'infiltre, mais très pragmatiquement, c'est-à-dire que souvent dans les réunions de concertation sont des petites tables où à chaque table, il y a des représentants des villes qui sont chargés de faire des rapports et d'amener finalement doucement, parce qu'eux aussi se sont réunis entre eux pour savoir ce qu'ils avaient envie, et faire ressortir en tout cas l'intention de la ville. Et ben, eux, ils font pareil, ils se répartissent dans les tables et ils jouent le même jeu en fait. Et ils essayent d'amener là où eux, ils ont réfléchi. Donc il y a des gens qui pensent à ce type de tactique-là. La question que du coup, moi je me pose, c'est que quand on arrive dans ces instances de concertation, est-ce que c'est déjà pas trop tard et je réponds juste à la question de la tactique. Il y a des projets vraiment où on a eu des heureuses surprises, et puis il y a des projets où on se casse le nez. C'est toujours de grandes désillusions, je pense, pour nous et pour les gens avec qui on travaille. Et je pense qu'en vrai, ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas de potion magique, en fait, mais il y a des contextes. On remarque qu'il y a des constantes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une volonté politique à un moment donné, hein, un endroit, un élu que ça concerne, pour ses propres raisons à lui, hein, que ça soit politique ou des fois humain. Un attachement affectif au quartier, ça peut exister. Les élus, ils ont cette liberté-là aussi.
Ils ont un cœur.
Et puis aussi cette liberté de dire « moi, je vais faire quelque chose dans ce quartier parce que je l'aime et que ma grand-mère, je ne sais pas trop quoi ». Mais ça arrive, un élu qui s'attache à un quartier juste pour une histoire affective. Et puis, il faut une énergie aussi sur le terrain. Et que, mine de rien, s'il n'y en a pas l'un et l'autre, ça crée de la désillusion. Et puis, des fois, on ne réussit pas, en fait. Et selon les quartiers, ça change, en fait.
François Poujardieu, peut-être pour répondre sur cette même question.
Oui, j'aimerais revenir juste sur la tactique, stratégie d'Olivier. C'est vrai qu'il est pragmatique, Olivier. C'est ce qui fait aussi, sans doute, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais sa crédibilité aux yeux des politiques. Mais en même temps, s'il fait ça, c'est aussi parce qu'il a tellement d'interlocuteurs à des échelons différents. Il y a tellement de services qui peuvent bloquer à certains moments, puis d'autres au contraire qui sont très 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 ouverts, très très bienveillants, et donc on est obligé aussi de varier les postures. Mais c'est pas de l'hypocrisie, c'est tout simplement que si on ne fonctionne pas comme ça, tout reste bloqué. Et alors après, il faut savoir que nous sommes tous très différents dans la manière de réfléchir sur ce lieu, parce qu'on vient de pratiques différentes. Donc on ne tient pas la même posture et ni le même discours. Et on a parfois du mal à faire des synthèses. Mais en même temps, on sait que c'est ça qui est important, c'est de qu'on ne puisse pas toujours l'arrêter, cette synthèse, et qu'on puisse après ouvrir des perspectives aux habitants et aux autres associations.
Deuxième stratégie. Dans ces façons d'activer la participation, de se faire entendre des politiques, c'est tout à l'heure Stéphane Marolo avait commencé à l'aborder, c'est prendre la main, c'est ne pas attendre que les technocrates s'emparent des sujets pour venir après, de manière plus ou moins condescendante, venir en discuter avec les habitants. Alors sur cette nécessité, Stéphane, de tout de suite porter les projets, les idées sur la place publique sans attendre que les politiques s'en emparent.
Oui, mais ça suppose la possibilité pour
acteurs locaux et habitants de mettre en place ce qu'on pourrait appeler pompeusement, puisque on est à l'ère du pompeux, une veille sociale, un observatoire des territoires. Mais la question, c'est de savoir celui-là même, comment on le fait agir. Donc, l'une des idées qu'on aurait certainement à développer, par exemple, sur le Grand Parc, c'est cette dimension d'observation partagée avec les habitants. Alors, on a eu l'occasion de la vivre un peu au travers du diagnostic territorial qu'on mène, qui est censé être un diagnostic partagé. On a expérimenté un certain nombre de choses qui nous donnent le sentiment que ça peut fonctionner. Donc, prendre la main, c'est avoir une bonne connaissance des besoins, des enjeux. Ça, c'est pour reprendre ce que disait Geneviève. Donc, pour avoir cette connaissance-là, il faut être en situation d'observation, en situation d'écoute, d'ouverture, de veille. Donc, c'est un ensemble de postures à voir. Mettre en place des espaces dans lesquels on invite les habitants à s'interroger sur leur espace de vie, à aller eux-mêmes à la rencontre de leur propre territoire. Comment est-ce qu'ils agissent dans la ville, etc. Il faut qu'ils développent des formes d'expertise eux-mêmes sur l'ensemble des questions sociales, etc. C'est à partir de là que les sujets majeurs émergent effectivement des habitants, et c'est à partir de là qu'on peut faire des propositions. Et c'est là, et c'est à cette condition-là qu'on est en mesure réellement d'engager un travail participatif, parce que le sujet est mis à l'ordre du jour par les habitants eux-mêmes. Donc je pense que c'est penser les choses très très en amont pour que ça puisse fonctionner. Donc voilà.
Troisième élément de ces stratégies ou tactiques de la concertation que je vous propose à la discussion, c'est concertation mais pas compromission. Au fond, rester aussi en capacité de refuser l'inacceptable, de ne pas tomber dans les pièges, d'affirmer la résistance au baratin, à l'édulcoré, au jeu du cirque. Alors, à la fois, il faut répondre aux invitations, il faut les devancer, mais aussi, parfois, il faut aussi savoir répondre niet. Qui veut répondre ou qui veut s'exprimer sur cette nécessité en même temps de la résistance? Peut-être Anne-Cécile, on en parlait hier soir.
Elle n'est pas évidente, la question, parce que savoir comment tu résistes, il y a une histoire ici où en France, c'est compliqué. Je pense qu'au frigo, on se pose tout le temps la question et hier, entre nous, on revenait sur l'histoire des formes artistiques que l'on crée, en fait, et sur les codes, en fait. Aujourd'hui, si on se dit que si on reproduit les mêmes formes, c'est-à-dire les mêmes codes qui ressortent dans une concertation, une liste d'idées, je voudrais une fontaine, je voudrais... En fait, on reprend les mêmes mots qu'eux, et eux, du coup, eux, les autres, ils peuvent faire du copier-coller sur des idées, qui sont juste des idées pour l'instant, et faire un projet là-dessus, qu'eux, ils pensent, quoi. Et du coup, on se dit que nous, on porte un projet qui s'appelle Lieu Possible, qui parfois se permet d'imaginer à l'échelle 1, ça veut dire en vrai, de façon temporaire, des idées portées par des habitants. Et ça permet deux choses. Une première, c'est de faire preuve. Et je crois que résister, c'est aussi prouver de temps en temps. Ce n'est pas forcément que dire non, mais dire mais regardez, ça existe, ça marche. Et puis c'est aussi s'auto-évaluer tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des fois des choses qui marchent et puis il y a des choses qui marchent un peu moins. Parce que je reviens sur ce que tu disais, c'était peut-être pas tout à fait ces mots, mais on a tous des fantasmes de la participation, de ce qu'on voudrait pour le quartier. Je vais prendre un exemple où on a bossé à la commande d'une collectivité territoriale à Mérignac. Et dans un quartier, je le reprends souvent parce qu'il était vraiment flagrant, quoi. Tous les habitants de 2 à 83 ans voulaient une boulangerie. Parce que le quartier était coupé par la rocade et que du coup, très pragmatiquement, pour aller acheter une baguette, il fallait prendre le bus pour ceux qui n'avaient pas le permis. Et du coup, ça faisait le ticket de bus plus la baguette de pain. Et du coup, on a bossé avec un centre social qui est génial et qui s'est vraiment impliqué dans le projet. On se rend compte que s'il n'y a pas ce type de structure, de toute façon, on n'y arrive pas, nous. Et du coup, on a monté un aménagement assez large dans un parc où il y avait une sorte d'épicerie, où il y avait des baguettes de pain. Et en fait, ce qui a marché, c'était l'énergie sociale qui était dans l'épicerie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'habitants qui sont investis. Mais en vrai, la boulangerie, elle n'a pas marché. Ils sont toujours allés à Lidl à côté. Le Lidl est à côté. Et du coup, c'était se dire, à ce moment-là, réajuster le projet. et se dire, bon, ben, y a besoin d'un commerce, qu'il y ait une activité sociale, mais pas forcément une boulangerie. Et je pense aussi, résister, c'est montrer qu'on est capable aussi de réajuster nos propres désirs, nos propres... Et je dirais pas, résister, c'est pas dire non, mais c'est prouver que ça peut se faire et qu'en plus, on réfléchit et qu'on est capable de le remettre en question, se faire, quoi.
Savoir remettre en question et se remettre en question. On arrive bientôt au terme de cette émission. On est ici dans la cité Grand Parc. Alors, à la fois, tout à l'heure, Stéphane Marolo, tu évoquais que la mairie avait acté le fait que la salle des fêtes, c'était vraiment une question récurrente depuis, je crois, de nombreuses années, que la salle des fêtes allait effectivement réouvrir ses portes avec une programmation. Alors, juste en quelques mots, dans quel délai, dans quelles conditions, comment ça va se passer, Stéphane Marolo?
Non, il n'y a aucun délai, aucune condition. Je crois que c'est pour ça que la mobilisation, on va la poursuivre, comme le disait Roland tout à l'heure. Il y a une parole politique qui a été donnée parce qu'elle a été forcée. Je crois qu'il n'y a pas photo. On a de ce point de vue-là acquis quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On parlait de pragmatisme. Nous, on s'appuie sur la parole. Hein. Ça a été dit, c'est fait, c'est bon. Hein. Donc maintenant, par contre, et on le verra ce soir à la présentation de la déclaration d'intention, il ne s'agit pas pour nous, je le disais, de proposer un contenu, hein, c'est hors de question. Par contre, la question de la gouvernance est posée. La question du processus d'élaboration et de concertation est posée dans cette déclaration d'intention. Hein, il ne s'agit pas pour nous de nous intéresser à l'objet salle des fêtes, mais de nous intéresser au processus démocratique qu'elle suggère. Hein, et là-dessus, on ne lâchera pas.
À quelle heure ce soir cette révélation de la déclaration d'intention?
Alors, écoutez, pendant l'heure exacte, je ne peux pas vous le dire, ce sera à partir de 19h, puisque l'ensemble des restitutions des chantiers mobiles se fait à partir de 19h. Donc, ce sera entre 19h et 21h. Et vous aurez la possibilité aussi de voir des images de la salle des fêtes.
Eh bien, on va écouter, maintenant le programme, justement, de ce jeudi 13 octobre par les élèves du collège Clisten.
Every day in Great Park City.
Everyday Legends from 10 to 12 by Clisten School.
And from 1 to 5 p.m. Philo Café with Condorcet High School.
Electricity. From 2 to 5. What a wonderful wind! Their journey in the neighborhood.
And at 6 p.m., imaginary drives a journey in the city, starting Le Louvre Market, ending in the Great Park. Electricity.
Le programme de cette journée du 13 octobre pour Evento, International Biennale of Urban Arts, par les élèves du collège Clisten, dont l'anglais est véritablement remarquable. C'est avec ce son qu'on va se quitter pour cette émission, mais ça me semblerait un peu curieux et délirant de proposer ce débat sur la participation sans participation. Donc à vous tous qui êtes autour de nous, et qui assistait à cette émission, si vous avez quelque chose à ajouter, une question à poser aux participants qui viennent de s'exprimer ou simplement dire votre sentiment, eh bien, vous êtes les bienvenus à le faire maintenant. Quelqu'un a envie de donner son sentiment sur ce qu'il a entendu? Quelqu'un se lance? C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Personne? On a résumé cette question. Allez, monsieur là-bas.
Alors, ouais, c'est toujours difficile de se lancer en premier. J'étais en train, en marchant, bravo, en venant, j'étais en train de réfléchir à cette question, au sentiment que me suggéraient ces discussions. C'était histoire de dire et d'appuyer que ce travail au quotidien, bon, je suis animateur au Centre social et culturel du Grand Parc, se fait vraiment, enfin, au quotidien. Et la question du temps, moi, me pose question. Enfin, je suis animateur jeune et du coup, enfin, comment à un moment donné aussi un public jeune qui est, on va dire, une catégorie sur le quartier du Grand Parc, qui peut poser problème à un moment donné, ou en tout cas on peut avoir ce regard-là sur ce public-là, est associé aussi à un moment donné sur la dimension d'animation de la vie locale, et comment à un moment donné on n'oublie pas justement cette tranche d'âge-là qui vont devenir ces futurs citoyens aussi, et comment on ne les oublie pas dans cette dimension de participation, parce que même si ce ne sont pas leurs préoccupations sur l'instant, je trouve qu'il y a cette question du temps est peut-être aussi différente pour ce public-là. Voilà. Et du coup, c'était pour appuyer cette question du quotidien et de tous les jours et de ces petites anecdotes et ces histoires, ces discussions qu'on peut avoir avec des habitants comme ça, de façon informelle, qui comptent, et on est, nous, le relais, justement, auprès des politiques publiques, justement, pour pouvoir faire le relais de cette parole-là.
Une réponse ou bien d'autres questions ?
Non, je voulais juste dire que, en réfléchissant de plus en plus à cette question de la participation, je pense que peut-être que beaucoup d'entre vous sont d'accord avec moi que ce n'est pas un beau mot. Il vaut mieux utiliser le mot comme Xavier l'a utilisé, démocratie directe. Bon, ce n'est pas seulement Xavier qui l'utilise, mais parce que participer, ça veut dire que c'est eux qui font notre vie, tandis que nous sommes les acteurs de notre propre vie. C'est plutôt voilà, faire la démocratie et pas la participation.
Anne-Cécile. Dans le micro, s'il te plaît.
Moi, je suis assez d'accord sur la question du langage. Et vous avez dû voir le collectif Éventail qui est à la gare de Bordeaux et qui se pose aussi toutes ces questions-là. Et que je ne sais pas s'il y a des mots qui, au bout d'un moment, sont obsolètes. Parce qu'effectivement, je pense que, en tout cas, quand les gars ils ont commencé le frigo, je pense que la question de la participation, c'était un nouveau mot, quoi. Et que les politiques publiques, ils faisaient rien en termes de concertation. Entre-temps, il y a eu la loi SRU, il y a eu l'ANRU. Et du coup, effectivement, je pense qu'il y a une veille à se réinventer toujours de nouveaux mots, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est démocratie directe. Moi-même, le mot démocratie, des fois, il me fait bien peur. Bon, voilà, je suis assez d'accord là-dessus et qu'on doit avoir une veille là-dessus, hein, sur le mot, en fait, qu'on utilise.
Geneviève.
Je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que il faut jamais oublier de faire l'inventaire des questions pour lesquelles on se mobilise. Et qu'il y a à la fois des questions autour des espaces publics, mais il y a aussi des questions autour d'injustices flagrantes comme la question du logement, la nourriture, les soins, etc. Et que ça doit faire partie aussi de l'environnement dans lequel nos questions se posent. Ça me paraît important. Sinon, on peut basculer ou chez les bisounours ou chez Disneyland. Alors, ça ne veut pas dire que la question sur l'espace public est un espace secondaire, de même que la culture, ce sont des espaces majeurs. Mais il me semble qu'il faut toujours les ramifier à l'ensemble des questions qui se posent sur un territoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais dire, parce que ça me brûlait la langue depuis tout à l'heure, c'est que, je vais le dire comme ça, la passion est toujours patiente, contrairement à ce qu'on croit. Et que entamer une discussion, entamer une négociation, entamer un bras de fer, entamer ce qu'on voudra, un changement, ça implique de savoir d'emblée que la partie va se jouer en plusieurs fois. Ça me paraît essentiel. Et que si on n'intègre pas d'emblée la question du temps, de toute façon, on est fichu. Ça me paraît... Parce qu'on va fabriquer plus de désillusions que de... Quelqu'un a utilisé le mot d'énergie sociale, je le prends, ça me plaît, je le prends. Je vais m'en servir, parce que c'est comment, à un moment donné, on peut travailler sur une énergie qui va se construire, s'organiser et être une force de proposition. L'autre point que je voulais dire par rapport à la notion de résistance, qui me paraît fondamentale, la résistance, c'est s'opposer à quelque chose. Mais ce n'est pas s'opposer pour dire non à l'autre, c'est s'opposer pour dire oui à ce que nous, on a envie de dire. Et c'est là que le débat commence. Et pour terminer, si vous permettez, je voudrais reprendre moi une phrase de... Parce que je me shoote un peu, moi, des fois, la poésie. Et tu sais bien de qui je vais parler. René Char dit « Agir en primitif et prévoir en stratège ». Je crois qu'à un moment donné, si on n'a pas notre part d'utopie, d'imaginaire et de passion qui se met au service de notre pragmatisme et de notre façon d'organiser des pratiques sociales, on ne peut pas s'en sortir. Voilà ce que je voulais dire.
François.
Hein ? Oui, il marche. Oui, je voulais juste ajouter que... Nous, évidemment, en pratique artistique, on travaille beaucoup sur le symbolique, mais en relation aussi avec une interactivité avec les gens qui réagissent à ce que nous faisons. Et dans le cadre de la Halle des Douves, on a un endroit qu'on a privilégié, qui est la porte de l'habitant. Alors, c'est l'habitant de la porte. Il occupe un seuil.
Qu'est-ce que ça veut dire habiter un seuil ? Il assiste à la circulation des gens qui rentrent, des gens qui sortent, et il essaye de ralentir un peu ce flux continu et créer de l'échange possible avec des mots, avec des photos échangées, avec des impressions. Et ce personnage-là, qui est à la fois dans le réel et puis dans la composition, il y a une part de jeu, fait participer les gens. Alors évidemment, il ne les fait pas participer d'un point de vue civique, social, complètement, mais d'un point de vue symbolique. Et je crois que c'est important, là aussi, ce que vous disiez, madame, par rapport à cet esprit d'implication collective qui passe par des seuils différents. Hein. Et c'est important de toujours regarder ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur pour ne pas oublier ceux qui sont à l'extérieur et ne pas se concentrer uniquement sur ce qui se fait à l'intérieur. Donc, rester sur le seuil. Voilà.
Eh bien, je crois que s'il n'y a plus de questions, il me reste à vous remercier tous de votre participation à cet échange ici à la Cité du Grand Parc, à retrouver sur les ondes de Radio Grenouille 88.8 à Marseille et sur celle de Radio Campus Bordeaux 88.1, presque pareil. Rendez-vous demain sur ces deux antennes pour écouter le Travelling Radio qu'on a enregistré hier. Merci à tous.
Thank you.